Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de « La dernière crypte » de Fernando Gamboa, lu par Julien Chettel. Prologue. Avant que vous ne poursuiviez et vous vous plongiez dans ce récit, je vous invite à lire, à titre de prologue à ce livre, ces quelques lignes de la main d'Arturo Pérez Reverté et de bien les garder à l'esprit par la suite. Permettez-moi donc d'allumer ma pipe. Prenez votre cigare, installez-vous et écoutez ce que j'ai à vous dire, s'il vous agrée. Et rappelez-vous surtout que rien de ce que je vous explique ne peut être regardé de l'extérieur avec impartialité. Ce que je veux dire, c'est que certaines choses rendent nécessaire un pacte préliminaire. Dans les romans d'aventure, le lecteur doit être capable de s'intégrer dans la trame de l'histoire, de participer au sujet, et de vivre à travers les personnages. Mieux vaut ne pas se croire trop malin, ne pas jouer les sceptiques. Si le lecteur n'est pas capable de mobiliser son imagination, de s'impliquer et d'établir ce lien, même s'il est circonspect et subtil, ce n'est même pas la peine qu'il essaye. Il faut aller au roman, et en particulier au roman d'aventure, comme les catholiques vont à la communion ou les joueurs au poker. En état de grâce et prêt à jouer selon les règles. Ainsi, parmi bien d'autres classes, divisions et subdivisions possibles, les lecteurs sont essentiellement partagés en deux groupes, ceux qui sont entrés et ceux qui restent dehors. Arturo Pérez Reverté, El Doblón del Capitán Ahab. Mais laissons là ces prolégomènes. Que l'aventure commence! Je croyais que c'était l'aventure. Et en fait, c'était la vie. Joseph Conrad. La tempête.
Amenez la grand-voile !
Hurla une voix dominant le tumulte de la tempête.
Assurez le cabestan !
Nul ne répondit. Mais plusieurs hommes, au mépris des lames gigantesques qui balayaient le pont, se lancèrent dans une dangereuse ascension dans le gréement, afin d'affaler les voiles avant que le vent, qui soufflait jusqu'à plus de 70 nœuds, ne les déchire, ou pire encore, ne détruise complètement l'unique mât du navire. Contrevenant aux ordres du capitaine, le frère Juan Calabona contemplait la scène depuis le gaillard d'arrière, à la merci des éléments, et s'efforçant de ne pas être entraîné par les vagues, il préférait cependant rester sur le pont, plutôt que devoir supporter la puanteur insoutenable d'urine et de vomi qui régnait dans la cale. Il assistait avec incrédulité au changement de ce qui était encore un orgueilleux vaisseau quelques heures plus tôt, et qui n'était plus à présent qu'une embarcation malmenée sans pitié par des montagnes d'eau noire, qui l'assaillaient de toutes parts, cassant les cordages, brisant le bois et les os. Les embruns, que le vent convertissait en fine pluie d'aiguilles acérées, semblait transpercer la peau, là où elle n'était pas protégée. À deux pas de lui, mais cela eût aussi bien pu être deux lieues, le capitaine Villeneuve plissait les yeux pour tenter de distinguer le reste de la flotte par-delà les murailles liquides et écumeuses. De sa main libre, il indiquait au timonier quelques lieux impossibles, lui criant des instructions que ce dernier acceptait d'un hochement de tête sans en avoir compris la moitié. Pendant ce temps, Juan Calabona, trempé jusqu'aux os et s'accrochant de toutes ses forces au bastingage, se demandait avec terreur si la volonté du Seigneur était que son voyage s'achève là. Ils étaient partis de La Rochelle par une nuit noire, presque 8 semaines plus tôt. 18 cogues, longs de 70 à 90 pieds, avaient appareillé avec leur précieuse cargaison, les cales si pleines que l'on en avait ôté jusqu'aux pierres de l'Est pour faire de la place. Ils avaient navigué 22 jours durant, sans toucher terre, avant d'arriver aux îles Fortunées. C'est sur l'une des plus occidentales, l'îlot dit de la Gomera, qu'ils s'étaient réapprovisionnés en eau, en fruits et en légumes. Depuis lors, cela faisait 25 jours qu'il voguait, peut-être 26,